Enfin, je vais introduire le sujet présenté par Jade Boivin, qui est ingénieure agronome, sur la mystique de la croissance infinie et ses origines. Alors Jade, pour Gela, tu t'es sur les importants travaux de Dominique Méda, qui est un sociologue et qui a écrit un ouvrage intitulé « Les mystiques de la croissance, comment s'en libérer ?» et dans lequel les raisons sont analysées de notre obsession pour la croissance économique.
Oui, merci beaucoup Jeanne. En effet, je me suis appuyée sur les travaux de Dominique Méda, qui est une femme. Et d'abord, en préambule, je voudrais revenir sur assez brièvement sur ce que la croissance nous a apporté, puisqu'en effet, ces deux derniers siècles, ça a été des siècles marqués par une certaine forme de progrès, de changement radical de nos modes de vie. On a constaté une baisse importante des niveaux de mortalité, une amélioration des techniques de soins, de santé. On a produit notre alimentation de manière massive, on a rendu accessible cette alimentation à une grande partie de la population. Et donc, grosso modo, ces deux derniers siècles ont été marqués par un accroissement global de notre confort de vie. Et ça, ces apports bénéfiques, ils sont principalement observés dans les pays industrialisés, puis plus récemment dans les pays émergents. Et ça provient du fait que les sociétés ont considérablement accru la production de biens, et puis on a développé les services grâce au développement des techniques et des nouvelles technologies. Tout ça via l'exploitation des ressources de la planète. Alors, ce qu'on appelle la croissance, c'est bien la croissance de la production qu'on mesure avec le PIB, le produit intérieur brut, qui est l'indicateur qu'on retient pour mesurer la richesse produite. Ce modèle de la croissance, on vient de voir que ça a eu de nombreux bénéfices, mais ça a également eu des conséquences néfastes sur nos sociétés, puisque la croissance mesurée par le PIB ne se préoccupe pas du tout des impacts environnementaux et sociaux. Et assez récemment, dans les années 70, il y a une prise de conscience de ces dégâts de la croissance sur l'environnement. Et puis, on l'a vu la semaine dernière avec le rapport Meadows, qui alertait sur les limites de notre modèle de croissance infinie, alors qu'on est sur une planète aux ressources naturelles finies. Et les chiffres le montrent, notre croissance du PIB et la croissance des émissions de gaz à effet de serre et la destruction des écosystèmes naturels sont assez parfaitement corrélés. Et donc tout ça, ces dégâts sur l'environnement, ça a été longtemps invisibilisé, ça n'a pas été pris en compte et ça n'a pas été traité.
Donc on serait dans une contradiction entre le fait que la croissance génère des bénéfices et qu'en parallèle, elle génère des dégâts environnementaux. Alors pour quelles raisons est-ce qu'on est tant focalisé sur cette croissance?
Alors notre obsession pour la croissance infinie qui se fait au détriment de notre environnement, elle ne peut pas uniquement s'expliquer par la recherche de réponses à nos besoins naturels, tels que vivre en bonne santé, nous nourrir, nous loger, vivre plus longtemps ou rendre nos conditions de travail moins douloureuses. Si on est autant imprégné d'une soif perpétuelle de toujours plus produire, toujours plus consommer, c'est bien qu'il y a des raisons. Nos excès, notre démesure de production, elles s'expliquent nécessairement par des causes plus profondes que la simple recherche de plus de confort au quotidien. Alors, je vais faire un peu d'histoire. Je vais revenir à l'époque de l'Antiquité, au moment des grands philosophes grecs. On a construit une vision de l'homme qui était une partie intégrante de la nature. L'homme était un élément de la nature au même titre qu'un éléphant, qu'une sauterelle ou qu'une fougère. Et de ce fait, les philosophes et les scientifiques de l'époque, ils tentaient d'expliquer les phénomènes naturels, les phénomènes qui les entourent, par des lois qui régissent le monde et qui s'appliquent de manière indifférenciée à la nature et aux hommes. Par exemple, quand les Grecs voulaient expliquer un événement comme un tremblement de terre, ils se référaient à des règles de la nature et pas à une interprétation arbitraire qui résulterait de forces divines. Ce n'était pas Poséidon qui s'énervait sur l'espèce humaine dans un excès de colère. Mais cette vision, elle a radicalement changé au moment de l'avènement du christianisme, puisque la religion judéo-chrétienne a amené un nouvel ensemble de représentations philosophiques et des nouvelles croyances qui ont transformé notre façon de nous représenter le monde. La façon dont on se comporte vis-à-vis de notre milieu écologique, ça dépend de la considération qu'on lui accorde. Ça dépend de la façon dont on perçoit notre place en tant qu'homme, homme avec un grand H, dans les écosystèmes. Et je vais présenter la théorie de Lynn White, qui est un historien américain qui a écrit une théorie sur les racines historiques de notre crise écologique. Il a expliqué qu'il y aurait eu un mouvement de bascule de notre comportement prédateur et exploiteur qui pourrait tenir sa source dans une interprétation de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, que je vous cite les versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme et la femme et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur terre. Donc à l'époque, on est dans une toute nouvelle vision du monde qui affirme clairement que l'homme est fait à l'image de Dieu. Donc, sous-entendu, il est puissant. la nature, à ce moment-là, elle est désacralisée et l'homme peut en prendre possession. Il peut prendre possession des rivières, des sols, des animaux, sans que plus personne ne se soucie de ces éléments naturels. Et ce que Lynn White explique, c'est que l'homme s'est complètement affranchi des contraintes naturelles et qu'il a transcendé les éléments, il les domine et désormais il s'en émancipe. En cherchant à être à l'image de Dieu, en fait, l'homme veut régner sur la nature. Et puis, pire encore, on pourrait même se dire que l'exploitation des ressources naturelles par ses écrits religieux, ça a été validé, ça a été légitimé par l'accord divin.
Par la suite, est-ce qu'il y a eu des courants de pensée qui ont continué à faire en sorte que l'homme exploite la planète sans se soucier des impacts environnementaux?
Si on avance un petit peu dans le temps, au XVIIe siècle, le siècle des Lumières, avènement des sciences modernes et de la méthode scientifique, on développe par exemple l'astronomie, les sciences mathématiques, qui vont permettre d'expliquer pas mal de phénomènes. Je vous donne l'exemple de la rotation de la Terre autour du Soleil, hein, qui a été confirmée par Galilée à cette époque-là. Et donc, les scientifiques, ils étaient dans une démarche de recherche de vérité, de recherche de certitude et de rationalité. Donc, c'est une véritable rupture par rapport à l'époque précédente, puisque auparavant, les penseurs et les scientifiques cherchaient à reproduire des modèles du passé. Désormais, avec les nouvelles techniques et la mécanique, ça a amené la possibilité de faire plus et de faire mieux pour conduire au progrès humain. Ça s'est fait en opposition frontale avec les croyances religieuses. À cette époque, les hommes, ils n'étaient plus émerveillés ou apeurés par les phénomènes naturels. Désormais, les hommes étaient capables de comprendre et surtout d'expliquer ces phénomènes. Alors, je vais citer en particulier Descartes, qui écrivait « Par la nature, je n'entends point ici quelque déesse ou quelque autre sorte de puissance imaginaire, mais je me sers de ce mot pour signifier la matière même. » Donc à cette époque, la nature a été démystifiée. Elle est devenue un objet neutre pour l'homme, qui possède désormais les savoirs et les techniques pour manipuler la nature. Ce qui pourrait expliquer à cette époque, en fait, qu'il y a eu une non-considération des impacts des activités humaines sur l'environnement. Pour certains, la pensée de Descartes, c'est même une incitation à la surexploitation de la nature, c'est un symbole de la démesure humaine. Puis il y a d'autres théories qui nuancent un petit peu en disant que il s'agissait plutôt d'une pensée libératrice qui a permis en effet à l'homme de faire disparaître l'idée d'une nature magique.
C'est cette recherche de progrès finalement qui explique notre soif d'abondance ?
Alors pas uniquement, parce que si on poursuit un petit peu dans le temps, au XVIIIe et au XIXe siècle, c'était l'essor des sciences économiques et sociales. Il y a un philosophe et économiste en 1776 qui s'appelle Adam Smith, qui explique que la course à la croissance et à la production, elle réside aussi dans l'idée que la croissance, c'est une solution pour maintenir le lien social entre les individus. Donc, on a vu que les découvertes scientifiques, elles ont bousculé beaucoup de croyances religieuses qui faisaient que l'homme se pensait tout puissant et au centre de l'univers. Et donc, il y a beaucoup de constructions sociales qui ont été ébranlées. Et donc, il était essentiel à ce moment-là de trouver une solution pour permettre à la société de rester ordonnée. Et on s'est rendu compte qu'en mettant tous les hommes et toutes les femmes à la recherche de l'abondance, en assignant une tâche, un travail pour produire encore et encore, et bien chacun se sentait investi d'une mission collective. Et donc, on a convaincu tout le monde qu'en faisant la course à la croissance, chacun participait à créer la richesse pour toute la société. Et ça, Dominique Méda, elle l'explique dans son ouvrage. Si tous les hommes se dédient à la recherche de l'abondance, plus ils produisent et plus ils échangent de biens, et bien en fait, plus ils sont dépendants les uns des autres. Et alors, c'est la croissance qui est la source du lien social. Et ça, c'est encore plus vrai si les échanges sont particulièrement intenses et si le travail est subdivisé. Je vais prendre un exemple. Pour fabriquer un pull, on a divisé la production en plusieurs étapes. D'abord, il y a l'éleveur de moutons qui produit la laine. Il y a la personne qui tisse le pull. Il y a le technicien qui produit l'électricité qui alimente l'usine de fabrication. Il y a le transporteur qui va acheminer le pull jusqu'au magasin. Il y a le vendeur qui le commercialise. Et en fait, chaque étape est interdépendante. Et donc, la nouvelle pensée économique à cette époque-là, elle estime que c'est grâce à cette organisation du travail qui est axée sur la croissance, sur la production, qu'on crée le lien social entre les individus. À cette époque, l'essor des sciences économiques et sociales a contribué plutôt à privilégier l'étude des interactions entre les hommes au détriment de l'étude des interactions entre l'humain et la nature. Donc on a complètement à ce moment-là occulté les impacts environnementaux de nos activités, puisque c'est bien nos relations sociales qui étaient uniquement, dont il était désormais question à ce moment-là. Je vous cite Serge Moscovici, qui a écrit « La société est une modalité d'oubli de la nature ». Et dans les modèles économiques, le travail, la main-d'œuvre, ça a de la valeur, tandis que les ressources naturelles, c'est gratuit, c'est la course à la production et parce que le capital naturel, il est considéré à cette époque comme illimité. Et puis, si on se penche un petit peu sur cette époque, on voit que c'était aussi une phase de colonialisme par les pays industrialisés. Et donc, c'était une période de recherche d'expansion, de domination, d'exploitation de nouvelles ressources. Et donc, on part à la conquête du monde pour accroître les richesses. Et c'est la course à toujours plus de croissance, à l'illimitisme, comme si la planète était infinie.
Alors aujourd'hui, on entend parler de la croissance encore presque tous les jours. Pourquoi finalement c'est si prégnant ?
C'est vrai qu'au XXe siècle, on a connu plusieurs décennies de prospérité en Europe. Ça a été particulièrement le cas pendant la période des Trente Glorieuses, qui s'étend des années 1945 à l'année 1973, où les pays industrialisés, dont la France, ont connu une expansion économique vraiment sans précédent. C'était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu reconstruire notre société. Et donc, c'était une époque de grande dynamique en Europe, avec une croissance du PIB qui était durable, en moyenne à peu près 5% de croissance chaque année. Et on a assisté à ce moment-là à une forte période d'exode rural. Les villes se sont étendues, c'était l'essor de l'industrialisation. On s'est modernisé avec des nouvelles technologies, comme l'électroménager, on a eu accès à la télévision, ce qui a profondément modifié nos habitudes de vie. Et on a également assisté à une chute du chômage, puisque à cette époque-là, en Europe, on était à peu près à un taux de 2,4% de la population active qui était sans emploi. Donc globalement, la population s'est enrichie, le pouvoir d'achat a explosé et la consommation s'est développée. Et ça, aujourd'hui, bien que la croissance du PIB est tendanciellement à la baisse depuis plusieurs décennies, dans cette période exceptionnelle des Trente Glorieuses, elle fait encore référence comme un modèle de prospérité pour la France. Et ça, on voit les différents responsables politiques français, quelle que soit leur tendance, de gauche comme de droite, ils font de la croissance un vrai totem. C'est un but à atteindre, à les entendre, comme si la croissance était le Saint Graal pour mettre fin à tous les maux. Et voilà, désormais, on court perpétuellement derrière l'idée qu'il faut qu'on retrouve la croissance, parce que quand on aura retrouvé la croissance, quand la croissance sera revenue, eh ben, tout ira mieux. Voilà, je vous ai présenté quelques citations de certains de nos anciens présidents de la République qui sont assez parlantes sur cette mise en totem de la croissance.
Ok, mais bon, on imagine qu'il y a quand même eu quelques critiques. Alors, à ce fameux modèle de croissance, est-ce que tu peux nous dire en deux mots quelles sont les plus grandes critiques ?
Oui, alors je ne vais pas revenir sur l'intégralité des critiques, je vais en retenir deux. Le premier, c'est le féminisme marxiste. Dans les années 1970, il y a un courant de théorie féministe qui est apparu et qui a promu la fin du capitalisme au motif qu'en fait ce système entraînait l'oppression des femmes. Donc, le féminisme marxiste, il affirme en effet que le fonctionnement de notre société qui est imprégné du patriarcat, puisque en fait les lois, les religions, la politique, les arts, c'est majoritairement construit par les hommes, et bien pour ce courant de pensée, les femmes, elles sont doublement exploitées, d'abord à l'usine et également au foyer. Et donc, en fait, il y a une forme de subordination de la femme qui ne serait qu'une forme d'oppression pour maintenir les intérêts du capital de la classe dominante. Donc, de ce fait, il y a plusieurs personnalités marxistes. Alors, je vais citer Flora Tristan, qui est bien plus ancienne que 1970, mais selon elle, on pourrait transposer la lutte des classes qui est menée par les ouvriers au siècle de l'industrialisation à la lutte des genres. Et comme les classes ouvrières, en fait, les femmes, elles sont invisibilisées, elles sont mises en minorité. Et puis ensuite, je vais parler de l'écoféminisme, sans trop m'étendre, parce que c'est un sujet qu'on va parler plus tard dans le reste des séances. En effet, si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, on pourrait même suggérer que l'oppression des classes ouvrières, l'oppression des femmes, elle peut également être transposée à l'exploitation de la nature. Le courant écoféministe, ça a été notamment décrit par Françoise Daubonne dans les années 70, il estime qu'on peut faire un parallèle entre un système de domination et d'oppression des femmes par les hommes et un système de surexploitation des ressources naturelles par les humains. Et ce courant de pensée, il dit qu'en fait, il pourrait y avoir certaines causes communes. Le fait d'entretenir des rapports de violence et de domination de l'homme sur la femme ou sur le corps de la femme, ça existe depuis des millénaires. Dans la plupart des civilisations, le corps des femmes a longtemps été réduit à une fonction reproductive. Et donc, la domination de l'homme sur la nature, c'est un rapport d'inégalité. Et en fait, il y a la même idée de femme-objet qui a été validée et légitimée au fur et à mesure des époques, notamment par les grandes religions monothéistes qui ont entretenu cette idée de domination. Voilà, beaucoup de points communs entre les différentes formes d'exploitation. Il y a l'exploitation des classes ouvrières, l'exploitation des femmes, l'exploitation de la nature. On pourrait même encore aller plus loin avec l'idée qu'il y a une une discrimination qui a été basée sur l'idée de distinction de race, et tout ça avec beaucoup de violence pour assurer les intérêts d'une minorité dans un régime capitaliste obsédé par la croissance. Alors, je vais conclure en quelques mots pour que vous ayez voilà, les idées à retenir de ce que je viens de dire, c'est que voilà, il y a des théories qui disent que les traditions religieuses, l'essor des sciences auraient complètement révolutionné nos esprits pour aboutir à un système de pensée dans lequel chaque individu a intérêt ou est contraint à la croissance et dans lequel la considération de la nature n'existe pas. Ça, c'est notre représentation même de l'homme dans la nature et nos relations entre hommes et le reste, enfin, et notre planète, hein, qui ont été bouleversées ces derniers millénaires. Mais aujourd'hui, on est face à un, voilà, on est à un nouveau point de bascule parce qu'en fait, cette mystique qui nous imprègne, elle est confrontée aux études scientifiques qui mettent en évidence les dégradations avérées de nos écosystèmes. La croissance, elle n'est pas uniquement bienfaitrice, elle est également synonyme de maux sociaux et environnementaux. L'enjeu de la prise de conscience, il est particulièrement important parce qu'en fait, notre inconscient et nos paradigmes sociaux sont conditionnés par la mystique de la croissance. Et donc, il est important de bien comprendre ce lourd héritage qui imprègne nos inconscients pour nous en libérer.